Vous écoutez RTL.
Il est 9h et 1 minute.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de Leïla Slimani, édition Gallimard, par 6 voix.
Je suis très très émue, très émue, bouleversée. Et je ne me rends pas du tout compte de ce qui m'arrive, mais voilà, je suis très heureuse.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
C'est avec plaisir qu'on réécoute cette annonce de votre prix Goncourt. Alors, cette émotion intense lors de l'annonce du Goncourt le 3 novembre dernier, qu'est-elle devenue 6 semaines plus tard ?
Écoutez, je viens d'écouter là l'annonce et ça me fait un peu la même chose. Voilà, j'ai le sourire aux lèvres et je suis très contente parce qu'en réalité, je ne réalise pas vraiment ce qui m'arrive. Je pense que je m'en rendrai compte dans longtemps finalement, dans quelques mois. Là, je vis les choses, je les vis très intensément, j'en profite et je prendrai peut-être conscience du poids de cette annonce plus tard.
Qu'est-ce que le prix Goncourt finalement a changé dans votre vie de jeune romancière et que vous disent les lecteurs de Chanson douce lorsque vous les rencontrez ?
Ce que ça a changé pour le moment, c'est surtout que mon emploi du temps est très chargé, que je suis très sollicitée, que voilà, on a envie de m'inviter dans des librairies, que les médias ont envie de me poser des questions. Donc c'est surtout ça, mais ma vie reste la même. J'espère moi aussi rester la même. Quant aux lecteurs, ce qu'ils me disent, que c'est un sujet évidemment cruel, un roman assez sombre, mais en même temps, je suis assez étonnée de voir que beaucoup s'identifient aux personnages, notamment aux parents, et que c'est un sujet qui est quand même très universel, la question de la garde des enfants, du partage pour les femmes entre le travail et la vie familiale. Donc c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de gens, quelles que soient les générations.
Alors nous allons parler de tout ça en compagnie, bien entendu, de Bernard Lehu, avec nous également Isabelle Morini Bosque pour les programmes télévisés, Charlotte Arrigoni pour les Express de Laissez-vous tenter. Bernard, rappelez-nous tout d'abord ce que raconte Chanson douce, le roman de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016.
Leïla Slimani vient déjà de l'évoquer, mais on le rappelle en quelques mots. Oui. Il s'agit de l'histoire d'une nourrice meurtrière des 2 enfants dont elle a la garde. Alors votre roman, aux fausses allures de polar, car on connaît la coupable dès le départ, est tendu par un autre mystère, une autre énigme, une terrible question sans réponse. Pourquoi ? Pourquoi cette femme a-t-elle commis ce geste monstrueux et pourquoi les parents n'ont rien vu venir ? Votre premier roman dans le jardin de l'ogre traitait lui aussi d'un thème extrême, l'addiction au sexe d'une jeune mère de famille. Alors à mon tour de poser un pourquoi, Leïla Slimani, pourquoi pour vos livres ces choix très forts ?
Parce que ce sont des personnages qui s'imposent d'abord. C'est pas tellement les thèmes ou les choix comme ça de l'addiction sexuelle ou du meurtre. Ça, c'est finalement le regard qu'on peut en avoir après, une fois que le livre est publié. Évidemment, les médias ou les lecteurs voient ces sujets-là. Mais quand on écrit, on est d'abord guidé par une histoire et par le cours d'une vie d'un personnage qui va s'imposer à vous, dont l'existence s'impose à vous, est intéressante et passionnante. Et quand on est derrière son bureau, c'est d'abord ça qui nous guide. C'est pas l'envie de traiter d'un thème en particulier.
Leïla Slimani, ils sont quand même pas des thème très neutre, vous en conviendrez avec nous.
Oui, non, mais bien sûr, mais en même temps, aucun thème ne l'est. Aucun thème n'est véritablement neutre. C'est pas des thèmes classiques, dirons-nous, c'est pas des histoires d'amour, c'est pas des histoires de deuil ou des choses comme ça, mais en même temps, mes personnages sont quand même des personnages contemporains, dans une réalité assez banale, ils sont proches de nous, ils ont des secrets, ils cachent tous quelque chose, et c'est peut-être ça qui m'intéresse surtout, c'est de raconter ce qu'il y a derrière le masque, et même d'une certaine façon de mettre la lumière sur les masques dans nos sociétés, ouais. Dans le monde qui nous entoure.
Et alors à propos des masque, au moment de la remise du Goncourt, plusieurs jurés, à commencer par Bernard Pivot, vous ont comparé à Georges Simenon. Est-ce que c'est un modèle pour vous ? C'est une référence ?
Et est-ce que c'est un auteur que vous aviez lu ?
Oui, c'est un auteur que j'ai lu, c'est un auteur que j'aime beaucoup, d'abord parce que c'est un auteur d'atmosphère. Je trouve qu'il est un peu d'ailleurs comme les auteurs russes, certains auteurs russes que j'aime beaucoup. En quelques phrases, on est dans une atmosphère. On sait le petit café de Pigalle qui nous décrit, on voit l'odeur qu'il y a dans ce café, la tête du tenant romancier, on imagine tout de suite les choses et j'adore ça. J'adore les écritures d'atmosphère, les écritures de détails aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir une écriture littéraire sur le trivial. Et moi, je travaille beaucoup sur les petits détails triviaux qui, je trouve, disent parfois beaucoup plus que les longs discours. Donc oui, c'est un auteur que j'aime beaucoup et qui, en plus, a toujours travaillé sur une écriture comme ça, à l'os, en enlevant tout ce qui est inutile. Et même sur le plan stylistique, ça m'influence beaucoup.
Là, en l'occurrence, l'os est saignant.
Oui.
Oui, mais alors avec une écriture très très neutre. Hein. Voilà, c'était écrit vraiment comme ça. C'est aussi aiguisé, froid que la lame d'un couteau, et c'est ce qui est remarquable chez vous. Alors, on va en revenir à ce qui s'est passé depuis ces 6 semaines et la remise du prix. De quoi sont faites les 6 semaines qui suivent un prix Goncourt? J'imagine qu'il y a une tornade médiatique.
Tornade médiatique, beaucoup d'interviews, beaucoup de photos, beaucoup de tournages d'émissions, mais aussi beaucoup de rencontres en librairie, voilà, donc des déplacements en province, des déplacements dans des librairies parisiennes, des rencontres avec les lecteurs, voilà, et tout ça cumulé, ça fait beaucoup.
On a compris que les sollicitations sont multiples. Quelle a été la plus insolite, voire la plus saugrenue qu'on vous ait fait depuis le 3 novembre? Parce qu'à mon avis, tout est possible.
Hein. Ah oui, non, tout est possible. Bah, j'ai reçu une demande d'une association végétalienne me demandant de venir les voir pour faire un appel au jury du prix Goncourt pour arrêter de manger de la viande et qui s'insurgeait contre le fait que nous avions mangé des cuisses de grenouille le jour de la remise du Goncourt. Donc, ils m'ont demandé de m'engager solennellement. Voilà,
parce que je voulais vous rester analytique.
Décliné.
Vous restez analytique même dans la description de ce qu'on vous dit.
Voilà, donc j'ai décliné cette offre. Mais enfin,
pour
voilà.
Le fameux déjeuner voilà, chez Drouan, bien entendu. Et alors, plus sérieusement, quelle a été la sollicitation, la proposition, je ne sais pas, ou la plus émouvante ou la plus flatteuse pendant ces 6 semaines?
Ah, c'est difficile de vous répondre comme ça. Je crois que ce qui m'a fait très très plaisir aussi, c'est l'accueil que le prix a reçu au Maroc. Le fait aussi que les gens au Maroc soient extrêmement extrêmement fiers, extrêmement heureux, que ce soit une femme jeune qui ait ce prix. Donc c'est peut-être aussi des messages venus du Maroc ou des invitations venues du Maroc qui m'ont particulièrement touchée parce que c'est mon enfance.
Oui. Donc, on le rappelle, vous êtes né à Rabat, ouais. Vous êtes arrivé en France à l'adolescence pour poursuivre vos études. Est-ce que, justement, vous vous considérez comme une espèce de porte-parole de la francophonie dans le monde arabe, dans le Maghreb? Vous avez conscience de ça, d'être peut-être
d'abord,
un symbole?
D'abord, je ne me considère pas du tout comme porte-parole, ni comme un symbole. Parce que, pour moi, un symbole, c'est quelque chose de statique. C'est un symbole, c'est statifié, ça ne bouge plus. Et moi, je n'ai pas envie d'être un symbole. À la limite, un modèle, ça m'intéresse, parce qu'un modèle, il y a quelque chose de dynamique, c'est-à-dire on emporte avec soi des gens et on est là pour transmettre et pour amener des jeunes à faire des choses. Moi, ce qui m'intéresse, notamment par rapport au Maroc ou au monde musulman avec lequel je peux être en contact, c'est de dire à des jeunes gens, à des jeunes femmes, qu'on peut écrire, qu'on peut oser, qu'on peut transgresser, être subversif et pour autant ne pas tout perdre, garder des relations avec sa famille, continuer à avoir une vie. Qu'une parole libre, ça veut pas dire, ça n'est pas le début de la fin, au contraire, que ça peut ouvrir énormément d'horizons.
Leïla Slimani est notre invitée aujourd'hui. Invitée exceptionnelle, dont laissez-vous tenter. 6 semaines après son heureuse élection au prix Goncourt pour Chanson douce, et je rappelle que c'était dès le premier tour, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, Bernard oui. Lehu. On va s'intéresser...
6 voix.
Et ben voilà, on va s'intéresser maintenant à notre soirée et aux audiences télévisées d'hier avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien écoutez, le trio de tête, c'est Esprit criminel sur TF1, ça aussi c'est saignant. 5 100 000 téléspectateurs et 21% du public sur la 1. Deuxième position, la rediffusion d'Alex Hugo sur la 2. Je suis très contente. 3 700 000 téléspectateurs et 16% du public sur France 2. Et en troisième position, je suis contente aussi. Recherche appartement ou maison sur M6. 3 100 000. Définitivement inoxydable et record d'audience aussi pour Arte avec The Immigrant avec Marion Cotillard.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours et avec grand plaisir en compagnie de la lauréate du prix Goncourt 2016, Leïla Slimani, pour son roman Chanson douce. On se souvient qu'en recevant votre prix chez Drouan, Leïla Slimani, vous aviez raconté au micro de Bernard Lehu que votre mère, qui vit à Rabat, avait rêvé que vous aviez gagné et avait pris l'avion pour Paris le matin même. Est-ce que c'est elle qui vous a donné la passion de l'écriture?
Oui, c'est elle qui m'a donné la passion de l'écriture et c'est elle qui m'a surtout donner la passion des écrivains et de cette idée que la littérature, c'était quelque chose de quasi sacré, que c'était un métier important d'être écrivain, que ça n'était pas rien. Et elle a toujours beaucoup cru en moi, beaucoup cru dans ma capacité à écrire. Alors, elle vous dirait hein, qu'elle a des vieilles rédactions de moi, de CE2, et qu'elle savait déjà, voilà, quand j'étais toute petite, elle avait déjà l'intuition que j'allais devenir écrivain. Donc ça, je ne sais pas quelle est la part de légende là-dedans, mais en tout cas, elle m'a toujours effectivement poussée à aller au bout de ce rêve d'écrire.
Elle est elle-même une grande lectrice ?
Elle est elle-même une grande lectrice, oui, et puis une lectrice très très sensible, vraiment très poreuse à la fiction et au plaisir de la fiction.
Et avec déjà des histoires de nourrices meurtrières dans vos rédactions, non ?
Non, mais ça c'est plutôt ma grand-mère qui me racontait des histoires terribles, des histoires très très cruelles, qui était une grande conteuse qui inventait beaucoup, et alors elle racontait des histoires atroces, et quand j'y repense, je me dis que ça a quand même dû avoir une influence sur moi, parce que c'était vraiment très cruel. Oui.
De l'influence des grands-mères. On continue dans l'intime, un heureux événement n'arrivant jamais seul. Vous attendez également un enfant, alors une lauréate du Goncourt enceinte, je crois que c'est une première, me semble-t-il,
oui,
dans l'histoire des Goncourt. Est-ce que vous vous ménagez ? Est-ce que vous vous protégez ?
Non, vous savez, c'est pas une maladie d'abord. Voilà, ça donne beaucoup d'énergie, au contraire. Donc, j'ai jamais eu autant de peps. Et je trouve même que symboliquement, c'est très bien. Et c'est très important de montrer aussi que être écrivain et mère, c'est possible. Il y a quand même beaucoup de femmes au cours des siècles derniers qui ont renoncé à la littérature, qui ont renoncé à cette vie d'écrivain parce que leurs conditions de femmes ne leur permettaient pas, parce qu'elles n'étaient pas indépendantes financièrement, parce qu'elles étaient mères. Combien d'écrivains ont renoncé à avoir des enfants ? Beaucoup de femmes écrivains ont raconté qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants parce qu'elles ne pouvaient pas avoir une vie intellectuelle et des enfants. Et je trouve que c'est important, là on parlait de modèle tout à l'heure, de dire que aujourd'hui c'est possible d'avoir une vie littéraire, de s'enfermer dans un bureau pour écrire et en même temps d'avoir des enfants, de les envoyer à l'école et se poser à son bureau pour écrire des histoires.
Alors vous croisez, et c'est peut-être le plus important, beaucoup de lecteurs. Et les lecteurs viennent à vous et vous parlent de ce livre, des émotions qu'ils ont ressenties, du parcours finalement que vous leur avez fait faire. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce que vous disent les lecteurs, les lectrices de chansons douces, Leïla Slimani ?
Beaucoup de mères me disent qu'elles ont ressenti ce que j'ai raconté, notamment sur les difficultés de la maternité ou ensuite sur les relations ambiguës et complexes qu'elles ont pu avoir avec les gens qui ont gardé leurs enfants, me disant en même temps, je n'ai jamais osé le dire. Je n'ai jamais osé le raconter. Je trouvais ça tabou de dire que parfois j'avais pas envie de m'occuper de mes enfants, que parfois j'étais épuisée ou dépassée. Donc ce qui revient beaucoup, c'est le fait d'avoir effectivement raconté que le bonheur maternel est aussi un mythe, une construction culturelle et que être mère, ça n'est pas que des moments heureux.
Dans ce que j'entends, il y a aussi, dans ce que vous venez de dire, il y a la culpabilité. La culpabilité de la maman, tout simplement, d'être fatiguée. Ça peut paraître incroyable, mais c'est bien le cas.
Oui, c'est bien le cas, mais je pense que n'importe quelle femme qui travaille et qui a des enfants sait à quel point, toute la journée, dans plein de situations, on infuse une petite culpabilité comme ça. Quand vous voyez, par exemple, un homme qui voyage beaucoup pour son travail, on lui dit « Oh, le pauvre, tu peux pas profiter de ta famille et tout, ça doit être dur pour toi. » Une femme qui voyage beaucoup pour son travail, on lui dit « Oh, tes pauvres enfants et tout, tu les laisses, ils sont encore tout seuls. » Donc voilà, on infuse très souvent cette petite culpabilité dans la vie des femmes qui est assez lourde à porter.
Alors, on vous lit beaucoup, vous êtes en tête des ventes depuis le Goncourt, mais en même temps, c'est mon expérience personnelle, lorsqu'on évoque le thème de votre livre, cette nourrice meurtrière, j'ai constaté que certaines personnes, souvent des jeunes femmes, des mères de famille, hésitent à vous lire. Comment lever leur appréhension ? Qu'est-ce que vous leur diriez là ce matin ?
Moi aussi, j'ai eu cette conversation, quand on parle du thème de votre livre sans l'avoir lu, ça met mal à l'aise. Et d'ailleurs, je pense que vous avez joué ou parié sur ce malaise. Alors voilà, allez-y, dites-leur de plonger.
Et je leur dirais que finalement, le but de la littérature, c'est aussi ça, c'est de déranger, c'est de bousculer, c'est de nous empêcher finalement, je crois que c'est Sartre qui disait ça, c'est de nous empêcher d'ignorer ce que nous voudrions ignorer, c'est donner à voir des réalités. Et finalement, je leur dirais que mon livre, ça n'est pas le récit froid et sanglant d'un fait divers, c'est un conte. Et comme tous les contes, il explore les terreurs enfantines ou de l'âge adulte, il explore les peurs les plus primaires, les plus primales qu'il y a en nous. Et je pense qu'il peut y avoir un plaisir à avoir peur, comme les enfants ont du plaisir à écouter.
Une dernière petite question, on attend le prochain maintenant. Ça y est, vous êtes remis à l'écriture ?
Non, pas encore, parce que entre la promotion ma grossesse, la préparation de la promotion d'un autre livre l'an prochain, voilà, j'ai envie d'écrire dans le plaisir, dans le temps long, donc non, pas de pression pour le moment.
Et puis vous écrivez une autre histoire qui est une histoire familiale.
Voilà, exactement.
Leïla Slimani, restez avec nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nous sommes toujours en compagnie de Leïla Slimani, Goncourt 2016, pour une chanson douce chez Gallimard. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Leïla. C'est désormais l'heure de nos Express. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, bonjour Charlotte. Ah, bonjour Charlotte. Ah, quand même.
Au lendemain de sa sortie, le film Rogue One a-t-il rencontré le succès escompté ?
Eh bien, le film tiré de l'univers Star Wars a attiré en France 275 000 personnes. C'est le 8e meilleur démarrage de l'année.
Pour son dernier rendez-vous de l'année, l'émission La Grande Librairie fête la littérature en chanson. Ce sera ce soir sur France 5.
Son animateur François Bunel réunit pour l'occasion des chanteurs et des comédiens qui célèbrent leur amour des textes. Sur le plateau, on retrouvera notamment Véronique Sanson, Olivia Ruiz, Sandrine Kiberlin ou encore Eddy Mitchell, Alain Souchon et Antoine Duléry, tous les trois qui improvisent un hommage à Charles Trenet.
À Moscou, on se rompt le cou, la glace glisse beaucoup. Ça paraît con, mais c'est formidable.
Une vache qui marche, c'est beau.
Sur le bord d'un étang bleu, il y avait un âne. Sur le bord d'un étang bleu, il y avait un âne bleu. Et cet âne la rêvait qu'il était gendarme. Et cet âne la rêvait qu'il était gendarme à pied.
Ah oui, non, mais c'est formidable.
L'émission de fin d'année de La Grande Librairie, c'est ce soir à 20h45 sur France 5.
Il a 50 ans très précisément, et il y a 50 ans très précisément, disparaissait le célèbre Walt Disney.
Le père de Mickey, Pluto et Donald est né à Chicago, aux États-Unis. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il avait des origines françaises. Oui, la famille Disney est passée par Isigny, en Normandie. Eh bien, hier, le village a baptisé les jardins de la mairie les jardins Walt Disney, une première mondiale. Sébastien Durand est historien de Disney, il nous en dit plus.
Eh bien, en fait, le nom de Disney vient d'Isigny en Normandie. Les ancêtres de Disney ont émigré avec Guillaume le Conquérant en 1066 à la bataille d'Hastings, il y a donc 950 ans. Et une fois arrivés en Angleterre, leur nom s'est anglicisé avec le temps, donc d'Isigny est devenu Disney. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le retour aux sources pour les gens de chez Disney qui viennent inaugurer ce jardin en l'honneur d'un enfant de la ville, même si Walt Disney, lui, n'est pas passé par Isigny, mais ses ancêtres viennent d'ici.
Il le savait, Walt Disney, qu'il avait des attaches ici en Normandie.
Oui, il l'a appris tardivement parce qu'en bon américain, quand il est devenu célèbre, il s'est intéressé un petit peu justement à l'histoire de sa famille. Il a travaillé avec des généalogistes et c'est comme ça qu'à partir de la fin des années 40 et début des années 50, quand il préparait son premier parc, hein, Disneyland, il voulait mettre un blason sur le château et donc il a cherché l'histoire de sa famille et du coup il a adopté le blason de la Normandie qui est fièrement posé sur le château de la Belle au Bois Dormant à Disneyland en Californie.
Sébastien Durand, historien de Disney, il était au micro RTL de Frédéric Veil. La chanteuse Camille, bientôt de retour. Un nouvel album est prévu au printemps 2017. Avis aux fans, une tournée sera organisée dès le mois de mai.
On se souvient, Charlotte, tous des morceaux de rap savoureux des inconnus dans les années 90. Eh bien, Pascal Légitimus remet ça.
Oui, l'humoriste a publié un clip sur sa page YouTube. Le titre de sa chanson, c'est le rap d'un monde qui dérape. Il est question des médias, de l'argent ou encore de l'industrie pharmaceutique. Extrait.
Légitimus 92. Ouais, j'ai des choses à vous dire. Propylène, parabène, collagène, du gluten cancérigène. J'ai la haine du système, l'atmosphère nucléaire qui remplit nos cimetières. Pharmacie meurtrière, Monsanto milliardaire.
C'est le rap d'un monde qui dérape, signé Pascal Légitimus. Sachez que 5 autres titres sont attendus. Ils seront distillés tous les 2 mois à partir de l'an prochain.
Merci beaucoup Charlotte, c'était des express de Laissez-vous tenter. Vous regardez la télévision, vous allez au cinéma, enfin vous avez une vie normale.
Oui, j'ai une vie normale, je ne suis pas un écrivain reclus dans ma tour, voilà. Oui, j'ai une vie tout à fait normale, je regarde la télévision.
On va passer à notre soirée télé avec vous Isabelle Morini-Bosque. Alors on signale d'abord un très intéressant portrait de Vladimir Poutine sur France 2. Oui. Mais vous avez une devinette pour nous?
Oui, écoutez un peu ça. Pas gagner du temps, ça dit rien à personne.
C'est la musique de Game of Thrones.
C'est la musique de Game of Thrones, série médiévalo-fantastique née en 2011 sur HBO et qui raconte la lutte de pouvoir de grandes familles pour conquérir le trône de fer. Alors au début de cette 5e saison, rien ne va plus pour personne, mais autant le savoir, tout se jouera et se dénouera au cours de la saison prochaine. Inutile d'en dire plus, ceux qui adorent cette fiction multiprimée savent tout. et les autres s'en fichent. Or donc, 21h, Canal+, bah oui.
Je suis dans la seconde partie.
Tout de même, c'est tellement complexe. Tout de même, une petite info qui, à laquelle je tiens beaucoup, c'est tiré des romans de George Martin, oui, qui s'était inspiré de qui ? Eh bien, des Rois maudits, de Maurice Druon. Faut rendre à César ce qui est à Maurice.
Oui, il l'avait dit à ce micro, d'ailleurs.
Oui.
Et ça, c'est toute mon enfance, hein, les Rois maudits. Alors, on parle maintenant de Jean-Luc Reichmann à l'honneur sur TF1.
Exactement. Il est aujourd'hui présent, si j'ose dire, du sol au plafond sur TF1. Commençons par son jeu quotidien, Les 12 coups de midi, toujours leader en audience, toutes chaînes confondues. Il s'est rien passé pendant qu'on avait le dos tourné, c'est toujours vrai, Jean-Luc ?
Oui, là, de ce côté-là, ça va pas mal en ce moment.
Bah écoute, et vous avez toujours votre champion, Christian, qui en a combien de centaines de milliers d'euros maintenant ?
Alors là, c'est assez extraordinaire pour un jeu télé. Effectivement, il en est à 700 et quelques mille euros. C'est une histoire de fou pour un homme qui est arrivé avec 15 euros en poche. Son banquier est heureux, hein, Isabelle.
Oui, qui était au RSA.
Voilà, c'est ça. Hein. Ce qui est très émouvant, c'est que les téléspectateurs suivent son histoire. Donc ça, c'est merveilleux. Une vraie télé-réalité dans la réalité du quotidien de Christian. Et puis, voit son évolution aux 12 coups de midi, ouais.
Christian gagne depuis juillet, non-stop, champion toute catégorie en gain et en durée depuis la création des jeux télévisés. Et du coup, le 24 décembre au soir, il sera opposé à tous les grands champions des 12 coups de midi. C'est un génie des coups plus un coup de génie. Prenez date et on en vient à la seconde actualité de Jean-Luc, Léo Mattei, flic chargé de la protection de l'enfance. Avec cette saison, beaucoup d'invités stars comme Slimane ou Vincent Moscato. Alors, rien d'autre à ajouter, Léo Reichmann ?
Et puis c'est une vraie création, comme vous le savez, et je défends la création française, Isabelle. On travaille en collaboration, main dans la main, avec la Brigade des mineurs de Paris, bien évidemment. Je me permets même de leur faire lire les scénarios avant, pour qu'on ne commette pas d'erreur.
Moi, je vous avais dit que j'avais globalement bien aimé, j'avais une ou deux réserves.
Oui.
On sait que vous êtes comédien, et on avait par moments l'impression que vous vouliez absolument le prouver, alors que c'était pas la peine, on le savait.
Ah bah alors là, écoutez, le Figaro cette semaine m'a épaté en disant vous allez être étonné par le jeu. Donc à chaque fois que vous me faites une critique sur RTL, Isabelle, je prends en compte tout. On s'améliore de jour en jour.
Voilà, donc 20h05, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus sobre et moi j'ai beaucoup aimé l'intrigue, mais j'adore les polars, moi.
Leïla Slimani, merci beaucoup d'être venue passer cette matinée avec nous.
Merci
à vous. Tenter. On vous laisse à votre prochaine création, hein, qui sera tout simplement un enfant, on l'a bien compris dans cet entretien.
Voilà.
Et on renvoie à nos auditeurs, bien entendu, avec grand plaisir, à la lecture de Chanson 12, qui va être adaptée au cinéma, chez Gallimard, prix Goncourt 2016. Bonne journée à vous.
Merci.
Vous écoutez RTL.